tuk, tuk, tuk. Et deux mesures piano, comme écho. Encore une fois.
Mais ça commençait à exploser, quoi, et les gens n'avaient plus aucune possibilité d'arrêter ce mouvement, quoi, donc de l'underground. Ça, et je crois qu'en 68, très rapidement, dès que je suis rentré chez moi, j'ai dû m'acheter une guitare et essayer de faire pareil, quoi. J'avais 13 ans et essayer de faire pareil, quoi.
Quelques souvenirs du futur, pour reprendre les mots du musicien Luc Mariani qu'on entendait ici, pour évoquer une révolution réussie ou pas tout à fait, à vous lire Marc Alvarado. Je cite le titre de votre livre, La Chienlit, le rock français et mai 68, histoire d'un rendez-vous manqué aux éditions du Layer. Un beau livre de 400 pages, richement illustré, hein, très riche par l'iconographie, les photos, les pochettes d'albums, mais surtout par ses sources. Une investigation fouillée, faite d'interviews que vous avez menées pour partie, d'une grande connaissance de la presse de l'époque, hein, actuelle et rock et folk en tête, et puis des disques de l'époque, hein, il s'agit d'ailleurs plutôt de la période 68-76, réussite, récupération, espoirs et échecs sur 8 années très riches en musique et en idées en France. Bizarrement, la révolution de mai 68 ne sera pas musicale. Alors, qui est pop en 1968 ?
Je veux une fille qui chante comme une danseuse, danse comme une chanteuse, court comme un canard, vole comme un placard, parle comme un cuistot, marche comme un magnum de Bordeaux.
À quel tableau ?
Super girl, ma super girl, super girl, ma super girl. Je veux une fille qui aime comme un teuton, saute comme un mouton, chauffe comme un dragon, hurle comme un démon, griffe comme une sorcière, fume comme une vieille cuisinière.
À quel panthère? Super girl, ma super girl, super girl, ma super girl.
Supergirl, les effets, je précise, sont inclus dans la musique. Supergirl, c'est le premier morceau d'un album enregistré en 68, un disque rare, je crois que le pressage original, ça vaut autour des 300 euros. Hein. Les fleurs de pavot, alors Marc Alvarado, est-ce que le problème avec le rock en France, il ne serait pas aussi lié à l'humour? Parce que là, il y a quelque chose d'une tonalité comique et c'est quelque chose qu'on retrouvera tout le temps.
C'est-à-dire lié à l'humour, qu'on a du mal à mélanger le rock et l'humour, c'est ça, non ?
Bah que le rock est apparu en France sous sa forme humoristique, ah. Si on se rappelle Boris Vian, Rock'n'Roll Mobs, ouais. Ce genre de choses.
Oui, d'ailleurs, c'est aussi ce qui avait un petit peu collé au basque de Nino Ferrer, dont on parlera sans doute un petit peu plus tard, qui était ce côté un peu humoristique dans les textes, qui, pour lui, à un moment donné, a plutôt desservi le dessin artistique qui était le sien par rapport à ses musiques. Alors le rock, c'était considéré par les journalistes français en 68 comme quelque chose de très sérieux, et des gens comme Rock et Folk ou même des gens comme Actuel un peu plus tard ont écrit de manière extrêmement sérieuse et pas du tout drôle sur le rock. Et d'ailleurs je me rappelle d'un texte de Philippe Paringaud qui pratiquement 20 ans après s'est excusé d'avoir vraiment manqué d'humour en parlant du rock, parce qu'il disait: autour de moi je voyais des groupes qui s'éclataient, qui buvaient des coups, qui prenaient du bon temps, et nous on racontait pas du tout ça, on voulait que ça reste vraiment sérieux.
Alors, pourquoi bon, d'après vous ?
Ben parce que je pense que c'était une culture jeune et qu'il avait envie que cette culture jeune, qui était la culture de son époque, la culture des jeunes, ne soit pas discréditée par les plus grands, par les adultes. Donc il y avait aussi sans doute cette envie de se hisser à la hauteur des autres cultures qui étaient la littérature ou le cinéma, qui ont toujours été des cultures plus considérées comme des cultures majeures en France par rapport à la musique.
Alors, on revient un instant sur ce disque, Les Fleurs de Pavot. Il est sorti donc en 68, produit par Jean-Claude Vanier, Bernard Restardi, vraiment des grands faiseurs, qu'on travaille avec Gainsbourg notamment, ouais. avec Nino Ferrer aussi, ou encore Françoise Hardy. Et le revers de la pochette de ce disque est vraiment génial, parce qu'il raconte, mais de façon assez fantaisiste, la rencontre de Jésus et Groovy Pat, venu de San Francisco et de Londres. Ils auraient joué à Saint-Tropez avant de se faire remarquer par le producteur des Rolling Stones. Enfin, c'est n'importe quoi.
Oui, et puis c'est complètement bidonné, parce qu'en fait, c'est un ancien groupe de Twist qui s'appelait les Bourgeois de Calais, et leur manager, qui s'appelait Jean-Pierre Robson, qui était très connu, mais qui était un manager de variété, leur a demandé de se déguiser en hippie et de faire un album de musique psychédélique, et c'est devenu Les Fleurs de Pavot, avec tout, finalement toutes les poncifs de la contre-culture nord-américaine de cette époque qu'on retrouve là-dessus. Donc tous les textes ont évidemment bidonné, mais c'est un, je dirais, une apologie de l'amour à plusieurs, une apologie de l'utilisation des drogues, du LSD, du pavot, etc. Donc c'était bien dans l'air du temps, on va dire.
Alors votre livre, Marc Alvarado, c'est un peu se demander ce que mai 68 a pu faire à la musique, ce que cela a pu susciter, comment la musique a pu répondre, réagir. Alors on découvre, vraiment c'est très riche, hein, la destinée fulgurante de groupes qui vont rester underground. Certains ont des noms très fantaisistes, hein, je pense à Étron, Fou, Le Loup Blanc, ouais. Hein, évidemment. On fait pas une longue carrière forcément avec un nom pareil. Parmi les artistes connus du grand public, qui, pour prendre la mesure de ce qui se passe en mai 68, à vous lire, on a l'impression qu'en dehors de Léo Ferré, quasiment personne, ce sont plutôt de jeunes musiciens encore inconnus que l'on va voir à l'œuvre, comme par exemple le fils de Boris Vian, Patrick Vian, et son groupe Red Noise.
L'été, l'hiver, le ciel et la mer, l'amour. Passe-moi le joint, je plane. Passe-moi le joint, je plane. Et puis ta sœur. Passe-moi le joint, je plane. Fini, parti, le ciel et la mer.
Cassé, brûlé et vous jouirez. Red Noise, parlez-nous de ce groupe, Marc Alvarado, parce qu'ils vont enregistrer qu'un seul album,
ouais.
Et finalement un groupe comme Red Noise, tellement anticonformiste, tellement anticapitaliste, était amené à ne pas durer.
Ouais, c'est un groupe qu'on qualifiait d'enragé, c'est un groupe qui est né finalement et qui a fait ses premières armes dans la cour de la Sorbonne occupée en 68. Et voilà, leur but c'était vraiment de créer de l'agite propre, quoi, de créer du mouvement, d'aller vers tous les excès. Donc ils se foutaient complètement de leur maîtrise de l'instrument musical. Et le but c'était vraiment d'envahir les scènes et puis de faire passer leur message. Voilà.
J'aurais voulu que notre musique soit une espèce de poubelle. On jette dedans des morceaux de chansons populaires, des bruits, n'importe quoi. On agite tout, on ressort ça tel quel. Nous voulons démolir, tout virer. Si d'autres veulent reconstruire ensuite, c'est leur boulot, pas le nôtre. Patrick Vian, c'est le véritable révolutionnaire de la musique à cette époque-là.
Enfin, véritable, ils sont quand même quelques-uns, mais c'est celui qui décide, ou fait partie de ceux qui décident d'utiliser la musique pop, comme on disait à l'époque, comme véhicule de l'anarchie, comme véhicule du discours subversif. Et ils se sont d'ailleurs pas gênés de le faire, que ce soit sur disque ou que ce soit aussi pendant les festivals ou dans leurs concerts où il se passait toujours quelque chose. D'ailleurs, Patrick Vian disait souvent à la fin des concerts de Red Noise, il y a la police ou les CRS qui débarquent et c'est le signe d'un concert réussi.
Marc Alvarado, vous aviez 7 ans au moment de mai 68.
Ouais.
Quel souvenir vous en gardez?
Aucun.
Et comment vous allez découvrir cette scène à laquelle vous consacrez un ouvrage entier?
Parce que j'ai découvert la musique rock plus tard, au milieu des années 70, on va dire, je me suis quand même posé la question, ces derniers temps, de pourquoi est-ce que cette musique n'a pas joué le rôle qu'elle a pu jouer en Angleterre ou aux États-Unis comme porte-parole du message de la jeune génération, dans une période quand même assez tourmentée, notamment en France avec les épisodes de mai. Et n'ayant pas trouvé de réponse évidente à ma question, je suis allé creuser un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter justement comme élément de réponse. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez appris en faisant ce livre, hein, La Chienlit?
Ben, j'ai appris déjà que on a gardé la mémoire de très très peu de groupes, mais il y en avait quand même un certain nombre. Que ça a concerné aussi bien Paris que la province. Donc il y a eu un véritable mouvement d'éclosion du rock national, on va dire, en province.
Et oui, ça envoie des groupes qui viennent de Grenoble, de Metz, de Nantes.
Même dire qu'à un moment, la province est venue supplanter le mouvement qui a démarré à Paris, mais qui s'était complètement étiolé. Pratiquement éteint, et c'est la province qui l'a rallumé, qui a rallumé le feu.
Même d'avoir une tension, en fait, pour certains groupes, entre Paris et la province.
Les Parisiens aimaient pas, à part quelques groupes comme Variation, par exemple, qui tournaient énormément en province, mais sinon les groupes parisiens tournaient principalement à Paris et dans sa proche banlieue. Et il y avait effectivement, à l'inverse, des provinciaux qui avaient une sainte horreur de la ville de Paris et qui ont tout fait pour essayer le plus longtemps possible de rester autonomes. Donc on montait des labels en province, on organisait des festivals en province, etc. etc.
Quel groupe par exemple?
Ange, typiquement. Ange, tout s'est fait à partir de Belfort, autour de Belfort, et tout s'est organisé à partir de ça. Mais il y a eu aussi des choses dans le nord de la France, il y a eu des choses à Lyon aussi, puisque j'en suis originaire. Il y a pas mal de choses qui se passaient quand même en province. Ouais.
On peut encore se battre.
Ah, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut se battre. Il y a toujours des choses, mais c'est quand même un grand engagement. C'est pas facile d'arriver subitement à se battre comme ça. Je sais pas si j'y arriverai. Je suis en train de glisser tout doucement.
Et si on parlait alors de se battre simplement dans le milieu de la chanson, si vous aviez la baguette magique qui vous donnait la possibilité d'y faire quelque chose,
c'est très hypothétique. Mais personnellement, une chose que je souhaiterais, c'est qu'il y ait qu'il n'y ait plus de monopole d'État en ce qui concerne la radio et la télévision, de façon à ce qu'il puisse se créer des tas de postes privés, comme ça se passe en Amérique, ou même comme c'est en train de se passer en Italie en ce moment, puisque le monopole est tombé en Italie, et qu'il y a une infinité de stations privées qui se montent partout en ce qui concerne la radio.
Remarquez que vous êtes toujours le bienvenu ici.
Ah oui, mais là n'est pas le problème. Enfin, je sais, j'aime.
Pourquoi l'Amérique? Parce que vous seriez tenté de faire un spectacle à l'américaine plutôt que
la française. Ah non, je ne suis pas du tout tenté par le côté spectacle. Moi, je suis tenté par le côté uniquement disque. Pour moi, un disque, il faut que je reprenne depuis un peu plus avant. Les chanteurs, c'est quelque chose de très décrié à notre époque. C'est-à-dire que nous sommes des espèces de bouffons, comme ça, qu'on prend pour boucher les trous. Mais, moi, c'est pas comme ça que je le vois personnellement. Moi, je suis chanteur, oui, parce que les circonstances de la vie m'ont amené à être chanteur. Mais pour moi, mes disques, ce sont mes symphonies, voyez-vous. Alors, je veux dire que j'essaye de mettre quelque chose. J'y mets mon cœur dedans, mon cœur et mon esprit. c'est un grand problème et difficile d'en parler en deux minutes comme ça.
Ben, j'espère que nous aurons l'occasion un autre jour d'en parler peut-être un peu plus longtemps.
Vous savez que moi je suis à votre disposition.
On ne vous verra pas.
Faites-moi signe.
On ne vous verra pas sur les scènes du Tour de France ni sur les plages cette année, mais enfin je suis sûr de toute façon on vous écoutera. Merci de nous.
Nino Ferrer, c'était sur France Inter Actualité en juin 1976. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites ici, mais je reviens sur le disque, puisqu'on a ici l'exemplaire qui est sorti de la discothèque de Radio France, Marc Alvarado. Ce disque, Nino Ferrer et Legs, c'était ouais. son groupe anglais, donc on ouais. y voit ses yeux bleus reproduits par trois fois. Ouais. Mais ça, il s'en est vendu, vous me disiez, à peine 2000 exemplaires.
Quelques milliers, ouais. C'est un disque qui est devenu culte. Il a été réédité en CD il n'y a pas très longtemps, il était introuvable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Nino Ferrer voulait absolument enregistrer un disque de rock. Il l'a enregistré au château d'Hérouville avec des musiciens anglais qui étaient ses amis, qu'il avait rencontrés d'ailleurs dans le sud de la France, à Saint-Tropez. Et contre la volonté de sa maison de disque, il sort un album de rock, de pur rock, sans aucun tube. Et évidemment, sa maison de disque, qui était Barclay à l'époque, a tout fait pour enterrer l'affaire, pour que le public n'ait pas autre chose que l'image du Nino Ferrer amusant, qui était celle du Nino Ferrer qui vendait des disques. Voilà.
C'est-à-dire que celui qui chantait Mirza, les c'est cornichons, ça. Ce genre de choses. Mais finalement, ce qu'il disait ici, la privatisation des radios et la fin du monopole d'État, finalement, ça finira par arriver.
Oui.
Mais tout ça, c'est le fruit de mai 68. Donc, qu'est-ce qui n'arrive pas, selon vous?
En tout cas, les médias en France ne donnent aucun accès aux groupes, aux jeunes groupes de pop et de rock qui naissent après mai 68, donc à partir de 69. Et ça a été beaucoup décrié, ce manque d'accès aux médias. Il y avait une censure, on le savait que, à l'époque, la radio, la télévision publique était sous contrôle de l'État, avec un ministère de la communication qui surveillait tout ça. Et évidemment, le rock, qui était perçu comme quelque chose de gauchiste, de subversif, n'avait pas sa place ni à la télévision, ni à la radio. Alors, il y a quand même des émissions qui ont réussi à s'infiltrer. Pop 2, le Pop Club sur France Inter, etc. Donc il y a quand même des endroits où on entendait un peu de rock, mais c'était quand même pas grand-chose.
Quand on avait la chance d'aller faire un tour en Angleterre, ou alors traverser l'Atlantique pour aller aux États-Unis, on était dans un autre monde. La première fois où je suis allé aux États-Unis, en 72, quand je suis rentré en France, je me suis dit, mais mon Dieu...
Patrice Blanc-Francard, chroniqueur à Rock et Folk.
Dans un petit bourg du sud-ouest de la France en 1871. Aujourd'hui, on a oublié ça parce qu'on est dans un village global. On a cette connexion instantanée, mais pas du tout. Au début des années 70, on était des fous furieux qui véhiculaient notre sorte de message. Il y a un concert au Bataclan, c'est dans deux jours. Et il n'y a pas une affiche, rien. Un disque qui sortait en import... À l'époque, mais j'aurais fait des, je sais pas quoi pour aller le chercher parce que il sortirait peut-être même jamais en France ou peut-être que 8 mois après ou 1 an et demi après on l'aurait. Mais c'était se précipiter dessus, c'était un trésor. À la télé, on voyait des trucs infernaux. J'ai toujours haï de variété et surtout la variété du genre de celle que les émissions de Maritier et Gilbert Carpentier nous bassinaient tout le temps. C'était juste, et c'était pour ça qu'on était révoltés d'une certaine manière. On en avait marre de voir ça. On avait marre de voir ces émissions. On avait marre de voir ces trucs qui représentaient pas pour nous la réalité. C'est vrai que mai 68 avait fait naître un courant dont certains disent qu'il était utopiste. Au futur antérieur, on peut penser qu'il l'était, mais il nous a donné quand même un boost extraordinaire. D'un seul coup, il y avait quelque chose dans l'univers qui s'ouvrait.
Les variations, je suis un rock'n'roller. C'est un des seuls titres en français qui ait fait les variations, ça, finalement.
Oui, et d'ailleurs, ça s'est fait dans des conditions assez particulières parce qu'ils étaient en tournée aux États-Unis et pendant un petit moment de relâche, ils sont allés, je crois que c'était à Philadelphie, mettre en place un titre qu'ils ont chanté en français. Ils l'ont envoyé à la maison de disques qui en a fait un 45 tours, qui a été leur plus grosse vente. Il apparaît sur aucun album, enfin peut-être qu'aujourd'hui sur des compilations, mais à l'époque il était sorti sur aucun album, parce qu'eux restaient des puristes du blues et du blues rock et voulaient absolument chanter en anglais, c'était leur truc quoi.
Alors Marc Alvarado, il y a un album complètement anglais que vont produire les Variations, c'est Take It or Leave It, oui. Apprendre ou à laisser, qui va paraître en 72 chez Pathé, qui est produit donc aux États-Unis à Memphis, en ouais. partie dans les studios Stax, avec un producteur extraordinaire, est-il précisé dans les notes, c'est Don Nix, oui. Qui est quelqu'un qui avait travaillé avec George Harrison, par exemple. Qu'est-ce qui fait que les Variations qui tourne beaucoup partout en France, qui aiment la vie de tournée. Tous les groupes n'aiment pas toujours la tournée, mais eux ne souhaitent que ça. J'étais tombé sur une interview, ils expliquaient que pendant 4 ans, le samedi, ils avaient toujours un concert. Ils ne savaient même plus ce que c'était qu'un samedi soir normal. Qu'est-ce qui va faire que les Variations, bah, même si c'est le groupe numéro 1, c'est ce que vous expliquez, hein, dans le cœur des fans de rock, finalement, ça ne prend pas et aujourd'hui, beaucoup moins de gens s'en souviennent.
Je pense que l'un des vecteurs à l'époque qui permettait de faire en sorte que des groupes sortent de l'ombre, c'était aussi la presse spécialisée. Et les journalistes de presse spécialisée avaient horreur des Variations. Alors, horreur pour des tas de raisons, mais en tout cas parce que ces gens-là étaient des flambeurs, c'était des mecs qui venaient du Maroc, ils étaient flamboyants, ils frimaient, comme on disait à l'époque.
Rock'n'Roll, ils ont fait un album qui s'appelait
Rock'n'Roll, bien sûr.
Les Juifs d'origine marocaine, exactement. Qui sont venus en France.
Et ce groupe, qui était sans doute l'un des plus talentueux, a été condamné, on va dire, par les journalistes à jouer les seconds rôles, parce que les journalistes ne voulaient pas parler d'eux, parce qu'ils les aimaient pas, tout simplement.
Alors on retrouve beaucoup de pages de rock et folk qui parlent de tas de groupes, hein, de revues comme Parapluie ou encore Filles qui moussent. Hein, tout ça, oui. c'était mené par l'écrivain Henri-Jean Hénu. Oui. Mais aussi, forcément, vous parlez d'actuel, hein, Nova Presse ouais. de Jean-François Bizot. Ouais. Comment est-ce que la presse prend-elle la mesure de ce qui arrive à la musique en France, hein, à ce moment-là?
Alors la presse, il y a évidemment la presse généraliste qui, elle, fait des grands articles sur le mouvement des jeunes suite à mai 68 pour essayer de voir qu'est-ce qui change dans la société française. Le rock est assez rarement cité par ces gens-là qui finalement s'y intéressent assez peu. Et donc laisse toute la place à la presse spécialisée ou la presse underground. Donc la presse spécialisée est représentée globalement, on va dire, par Rock et Folk, qui est le plus ancien et Best. Et puis la presse underground, avec un certain nombre de titres au départ dans l'esprit fanzine, dont un qui devient la référence, qui est actuel.
Voilà. Quelle idée est-ce qu'ils se font, eux, ou plutôt quelle représentation ils donnent de ces courants, de cette façon de vivre? Par exemple, si je pense au mode de vie communautaire, vous racontez, il y a une interview de Jean-Louis Majoun, le violoniste, qui sortira notamment deux disques chez Sarava en 73-74. Lui, il vivait en communauté, il raconte que Jean-François Bizot, quand il vient faire un reportage pour Actuel dans sa communauté, va tout mettre en scène en fait. Il va faire des photos où il met de la vaisselle dans la baignoire, histoire de donner l'image du désordre, alors que la communauté est organisée.
Oui, alors ça c'est ce que Jean-Louis m'a raconté. Effectivement, je pense qu'il y avait une imagerie à véhiculer, et que l'imagerie, peut-être que cette presse, qui restait quand même parisienne au départ, avait envie de véhiculer des gens qui vivaient en communauté, était peut-être celle d'un côté un peu hors norme, un côté anticonformisme, y compris dans le fait de faire la vaisselle ou de ranger la pièce dans laquelle on vivait. Alors que eux, d'abord, les musiciens se sentaient pas tant hors normes que ça. Ils avaient juste envie de faire du rock, de faire de la musique. Et puis, ils avaient pas non plus une vie complètement décadente, au point justement d'être totalement en dehors, en marge totale de la société. Aucun des musiciens que j'ai rencontrés n'aspirait vivre réellement en marge de la société. Ils espéraient vivre de la musique, mais à l'intérieur de ce système-là, en essayant de le faire bouger le plus possible pour y trouver leur place.
En essayant de créer, par exemple, ces labels, parce qu'à l'époque, il faut passer par des médias nationaux, il y en a quelques-uns, vous l'avez dit, ils sont contrôlés beaucoup par l'État, mais il y a aussi des maisons de disques qui appartiennent à des grands groupes industriels, je pense à Philips, par exemple, voilà, c'est l'Allemagne, ce genre de choses. Comment est-ce que les groupes vont essayer de produire eux-mêmes leur musique, parce que ça coûte des sommes folles pour l'époque?
Au départ, l'idée, c'est quand même d'utiliser le système tel qu'il existe, c'est-à-dire d'essayer essayer de signer dans les maisons de disques qui existent. Les labels indépendants n'existent pas. Il y a les grosses maisons de disques françaises indépendantes qui sont EAZ, Barclay, bien sûr. Enfin voilà, qui elles importent de la musique anglaise et américaine et donc distribuent via leurs labels internationaux cette musique-là. Et en
Mais
France,
ils distribuent pas tout. Ils distribuent ce qu'ils jugent
voilà,
meilleur,
ce qui les intéresse ouais. ou ce qu'ils jugent intéressant pour le public français. Et puis en France, ils n'éditent que de la variété. Donc certains groupes vont commencer à signer sur ces labels-là et sur les filiales françaises des multinationales, que sont Pathé, qui est la filiale EMI, ou Philips, donc la filiale de la multinationale néerlandaise. Et puis plus tard, CBS ou WEA, Warner, qui viendront compléter tout ça. L'avantage au départ, c'est que comme les maisons de disques françaises n'y croyaient pas, dans le rock français, elles ont laissé faire. Donc ils ont pu enregistrer les albums qu'ils voulaient, personne ne les embêtait. Par contre, il n'y avait pas de promotion, donc les disques se vendaient pas. Puis voilà, tout rentrait dans l'ordre. C'était pas un problème finalement. On dépensait, d'ailleurs Jean-Louis Majoun a dit, le premier disque qu'on a fait, fallait dépenser les frais généraux qui restaient en fin d'année. Et Vogue, qui était cette grande maison de disques française, leur a dit, bah tiens, j'ai un peu de temps de studio, etc., allez faire votre disque. Mais ça les intéressait pas. D'ailleurs, je crois qu'ils en ont sorti 500 exemplaires derrière. Par contre, le problème a commencé dès que ça a commencé à se vendre. Et ça, ça a été vraiment l'histoire que je raconte dans le livre, c'est que le problème de la récupération par les maisons de disques de la pop française s'est fait à partir du moment où des gens comme Martin Circus ou Triangle ont commencé à vendre des centaines de milliers de 45 tours. Et à partir de là, ça a pu être la même chose.
France Culture, Continent Musique, Mathieu Conquet.
Alors le paysage télévisuel à l'époque, c'était aussi le Discorama de Denise Glaser, hein, très bonne intervieweuse, qui faisait même pleurer Léo Ferré, certains lui en ont voulu, et puis aussi un certain Pierre Lattès.
La pop musique n'a vraiment existé que quand les studios prêts pour l'enregistrer ont été conçus. En fait, c'est bien sûr la technique qui a suivi la musique, mais le système du multipiste qui permet de réenregistrer, qui permet de mélanger, qui permet de trouver des timbres de façon infinie, a été utilisé d'abord pour la pop musique. C'est un ingénieur du son de chez Atlantic qui s'appelle Tom Down qui était le premier à utiliser le multipiste aux États-Unis et que ça a changé la musique. C'est-à-dire qu'à la fois la musique était prête pour ça et demandait ces changements, et en même temps, il y a eu un contre-courant, il y a eu un feedback, comme on dit aux États-Unis, et la musique a été transformée complètement par cela. Alors que les chanteurs français ont bénéficié d'une bonne technique classique, si vous voulez, une technique traditionnelle, puisqu'on a cité un nom déjà, Philips par exemple en France, a mis au point une certaine technique d'enregistrement de la chanson française, qui est d'ailleurs maintenant parfaitement statique, mais qui est fonctionnelle, qui est une bonne qualité, si vous voulez. Mais maintenant, il est très difficile aux Français de se sortir de ce moule. Quand ils le font, c'est pour imiter la production américaine. Alors je ne crois pas que la solution pour les Français soit de retrouver ces techniques américaines. Il faut qu'ils trouvent leurs propres techniques correspondant à leurs propres besoins.
L'arbre, ça c'était sur la face A de l'album de Alice, un album enregistré à Londres en 1970 au studio Marquis. Alice, c'était un groupe qui était mené par un certain Alain Suzan, qui était à l'orgue. C'était des musiciens qui se retrouvaient au Golfe de Rouault, mais le Golfe de Rouault, c'était le lieu des yéyés d'abord pourtant.
Oui, alors Henri Leproux, qui était le patron du Golfe de Rouault, a compris à un moment donné l'intérêt en termes de renouveau qu'il pourrait tirer pour son club d'inviter cette nouvelle scène. Et c'est devenu du coup l'endroit de prédilection où se retrouvaient tous les jeunes musiciens de pop française. Et il y avait le fameux tremplin du Gold Rouault du vendredi. Et généralement, le gagnant du tremplin gagnait la capacité d'enregistrer un 45 tours avec un label qui était partenaire. Donc c'était soit Barclay, ça pouvait être Philips. Et un certain nombre de groupes vont enregistrer effectivement leur premier 45 tours grâce à ce tremplin du Gold Rouault du vendredi.
Alors on entendait tout à l'heure Pierre Lattès, interviewé en septembre 71 sur France Culture. Il avait créé lui en 1967 le Bouton Rouge, ouais. C'était sur la deuxième chaîne publique. Qu'est-ce qu'il faisait et quand est-ce que ça s'est arrêté le Bouton Rouge?
Alors Bouton Rouge ça s'est arrêté en mai 68. Ça fait partie des gens dont on a coupé la tête en 68. Alors Bouton Rouge, c'était vraiment un militant du rock. C'était aussi un franc-tireur par rapport à ses employeurs, on va dire. Mais il faut reconnaître quand même que entre 67 et 68, il a surtout fait la promotion du rock anglo-saxon. Donc il invitait sur son plateau des groupes qui étaient à l'époque inconnus, comme Pink Floyd, comme d'autres groupes anglais qui démarraient à cette époque-là.
Fairport Convention.
Voilà, généralement, il n'y avait pas d'argent, donc les gens venaient juste pour passer un week-end à Paris et puis faire un petit peu de promotion. Donc il se débrouillait avec des moyens totalement rédhibitoires pour monter quelque chose d'intéressant. Mais par contre, on parlait assez peu de rock ou de pop française, peut-être sans doute parce qu'elle n'existait pas non plus à cette époque, ou pas beaucoup.
Et puis Pierre Lattès, qui est disparu il y a quelques années, aura été quand même un passeur très, très actif, puisque plus tard il fera Rock en Stock pour la télévision. Hein, vous parlez d'un numéro de Gong, enfin en septembre 73, qui était consacré au groupe Gong. Et puis il va même produire des disques, notamment le Camembert électrique, qui sera la dernière sortie du label BYG. BYG, donc c'est le label sur lequel était, enfin Big, B-I-G.
On va dire Big, hein,
Big. C'était le label sur lequel était paru Alice, mais aussi Gong, mais aussi beaucoup de choses de plutôt du côté du free jazz.
Ouais.
Un label très curieux, formé par Borusso, Young et un certain Georgia Caracos.
Oui, alors au départ, en fait c'est un opportuniste, ou ce sont des opportunistes, comme il y en a beaucoup dans le monde de la musique et notamment indépendante, pour exister, et il récupère de manière fortuite des bandes de jazz des années 20-30, notamment du label Savoie, qui est un label assez connu aux États-Unis, et il édite ces disques-là en France, et puis il commence comme ça à monter son label. Et l'occasion qui va lui être donnée de produire, c'est l'arrivée en France de musiciens de free jazz américains, afro-américains, qui ne peuvent pas retourner dans leur pays parce qu'ils ont peur d'être arrêtés, parce que c'est des gens qui sont très engagés pour la cause des Noirs et la révolution là-bas.
Qui sont proches des Black Panthers.
Exactement, qui sont pour certains même en font partie. Et il y a un festival de free jazz qui est organisé à Carthage. Et il utilise ce moment-là pour proposer à ces gens-là de les enregistrer, puisqu'ils sont globalement bloqués en France. Et il commence à produire des disques de free jazz avec Archie Shepp, avec Sonny Murray, avec un certain nombre de gens qui comptent. Et à ce moment-là, il se dit, qu'est-ce que je peux continuer, maintenant que ces gens-là sont rentrés chez eux, qu'est-ce que je peux continuer à faire pour faire croître mon label en termes de production? Je vais enregistrer de la pop ou du rock français. Et il enregistre comme ça le premier disque, 33 tours de rock français, qui est un disque de Alan Jack Civilization, ou Civilization, qui est un groupe qui fait du blues, rhythm and blues, chanté en anglais, mais avec des musiciens français, depuis une communauté qui est mise en place dans la région de Tours, dans le centre de la France.
Qu'est-ce qui se passe à Amougies, en Belgique, en octobre 1969? Parce que là encore, il y a ce fameux Georgia Caracos qui œuvre.
Alors on retrouve aussi Pierre Lattès à la production du festival d'Amougies, le Woodstock français qui a d'ailleurs eu lieu en Belgique, mais qui devait avoir lieu à Paris. En fait, l'idée de celui qu'on appelait Caracos, c'est de dire « j'ai aucun endroit pour faire tourner mes artistes ». Et mes artistes, ils font du free jazz, ils font de la musique contemporaine et ils font de la pop ou du rock français. Il faut que j'organise quelque chose pour faire tourner ces gens-là. Et son idée, c'est de faire un festival. Et cette idée, il l'a pratiquement en même temps que ceux qui ont l'idée de faire Woodstock. Donc c'est pas des gens qui vont copier Woodstock. L'idée est quasiment née en même temps, et sans qu'il y ait évidemment communication entre ces deux-là. Il commence à vouloir s'installer à Paris, donc il cherche des lieux. Il y avait un endroit où il y avait déjà des concerts un peu sauvages qui se passaient, qui étaient dans le Trou des Halles, le fameux Trou des Halles. Donc au départ, la municipalité donne son autorisation et puis évidemment se rétracte parce que la préfecture donne son veto. On leur donne la pelouse de Reuilly, puis non, et puis un troisième lieu à Paris, je ne me souviens plus lequel, et puis c'est non de nouveau.
Tout ça, c'est à cause de mai 68 finalement.
Voilà, enfin... donc évidemment la censure de la... En France, de toute façon, dès qu'on prononçait le mot pop, il y avait la censure qui était pas loin. C'était un mot qui faisait peur. C'était tout de suite le jeune cheveux longs, anarchie, etc.
Drogue.
Et à ce moment-là, la mairie de la ville de Tournai en Belgique dit ben, « Nous, on veut bien accueillir le festival. » Et puis finalement, elle se rétracte. Et à 15 jours de la date qui avait été annoncée, un petit village de 3500 habitants dans les Ardennes belges, qui passe à la postérité aujourd'hui et qui s'appelle Amougy, donne son autorisation. Et ça sera donc le premier festival de pop organisé en France, en tout cas en territoire francophone.
Et vont jouer là-bas Pink Floyd, Ten Years After, Archie Shepp, Gong, Frank Zappa aussi. Ouais. Philippe Constantin, vous le citez, raconte qu'en quelques mois, des groupes comme Pink Floyd, qui en 1969 vendaient 5000 exemplaires de leurs albums, bah, l'année suivante vont en vendre 40 000. Donc c'est un festival qui va avoir un très fort retentissement. Alors je vous propose, Marc Alvarado, qu'on écoute un disque qui sort d'un autre label intéressant, puisqu'on a parlé de Big, un autre label qui lui aussi oscille entre le jazz et quelque chose de plus rock, c'est la belle Chandard. On écoute votre choix, Obsolète.
Chrysler Rose, elle repose sur ses jantes abandonnées. Deux de ses roues sont voilées. Elle, sa capote est déchirée. On voit le ciel à travers quand elle est usée. Une Chrysler rose. Une Chrysler que j'ai au fond de la cour. Chrysler rouillée. Chrysler tout au fond de la cour, elle ne peut plus rouler, mais c'est là que je fais l'amour. Il pousse de la mousse et des glissimaux sur le volant. La doigt dans la ville, dans la poussière, sur la portière. Les enfants décrivent que d'Achille est un con. Oui, une Chrysler rose. Elle ne peut plus rouler, mais quand les ressorts grincent, quand les ressorts grincent, les enfants de l'immeuble aussitôt cessent de jouer pour venir regarder. Chrysler. Chrysler. Une Chrysler rose.
Chrysler. Chrysler d'Achel et d'Ayat, une Chrysler rose, c'est l'album obsolète que vous avez dans les mains ici, oui. Marc Alvarado, un disque rose, une très belle pochette, un peu énigmatique avec ce dessin de petite fille sur la couverture, et c'était édité sous le label Chandard. Un disque enregistré en 71 au château d'Hérouville. Il y a assez peu de chansons, il y a quoi? Il y a 4-5 chansons
sur ouais, ce... il y a surtout une face qui fait une seule chanson. Voilà. ce qui était assez courant à cette époque-là. Ouais.
Et d'un côté, d'Achel et d'Ayat, alors ça c'est le pseudonyme de Daniel Théron, alias Jacques-Alain Léger.
Melmotte, qui avait déjà fait un album ce son-là. Ouais.
Mais qui sera plus connu sous le nom de Jacques-Alain Léger en tant qu'écrivain, notamment pour Bing ou Vive me tue. Et à ses côtés, un groupe très important. Comment se fonctionne la rencontre entre Gong et d'Achel et d'Ayat, hein, puisque vous avez l'air de dire dans le livre que lui relativisait l'importance de Gong.
Gong, c'était des gens qui avaient choisi la France un peu, on va dire par hasard, comme lieu de rencontre. Donc c'était un groupe qui mélangeait à cette époque-là des gens qui venaient du monde anglo-saxon et puis des gens qui venaient du monde francophone, des gens qui venaient du jazz et des gens qui venaient plutôt du rock psychédélique. Bon, il y avait quand même un groupe comme Soft Machine, dont David Helen était issu, qui est un groupe très très influent en France à cette époque-là. Tous ceux qui avaient envie de faire des albums avec un fond musical un peu psyché pensaient à ces musiciens-là pour leur donner un coup de main. Donc la rencontre s'est faite dans cette envie-là, c'est-à-dire que Dashiell et Daya avaient fait un album deux années avant avec un fond free jazz sur lequel ils racontaient ses textes un petit peu comme il le fait sur cet album-là. Là, la mode était plus tellement au free jazz, était plutôt au rock psyché, à la pop. Et donc la rencontre avec Gong s'est faite de manière opportune pour avoir ce fond musical qui était celui qu'il voulait pour mettre en place ses textes, la texture dont il avait besoin.
Voilà. Alors, il y a un autre écrivain que vous mentionnez dans ce livre, Marc Alvarado, c'est Michel Bulto, qui lui aussi à l'époque est fasciné par le rock. En quoi est-ce que son écriture et le rock de l'époque vont se rejoindre ? Ce qui sera juste une fois dans le cas de Michel Bulto.
Ouais, alors lui, je pense qu'il y avait une fascination pour le Velvet Underground et cette forme de musique très artistique et en même temps, je dirais assez peu conventionnelle, on va dire, en tout cas, qui avait peu la volonté de séduire le public, mais plus de choquer ou de pousser un petit peu plus loin. Le travail d'écrivain de Michel Bulto allait déjà dans ce sens-là. Donc effectivement, il a essayé de trouver là aussi un écrin musical. La pop, c'était quand même quelque chose encore de subversif à cette époque. Donc quand on voulait faire passer un message différent, c'était important de pouvoir bien s'entourer et s'entourer de cette musique-là. Ça faisait partie aussi de ce que pouvaient chercher des gens comme Dashiell et Dayat ou comme Michel Bulto. Ouais.
Voilà, dans le cas de Bulto, quelque chose qui ressemble assez à William Burroughs, en tout cas à cette technique d'écriture, de cut-up, comme ça pouvait se faire aux États-Unis. Autre disque que vous avez choisi, Marc Alvarado, c'est le groupe Ange, dont il est beaucoup, beaucoup question dans ce livre.
Dis-moi qui suis.
voilà le disque Ange qu'on avait ressorti Au-delà du délire, un disque qu'on a retrouvé dans la discothèque de Radio France, un disque qui était paru en 74 chez Phonogramme. Je t'écris la couverture parce que c'est vraiment iconique, un paysage désertique et futuriste avec un paysan du Moyen-Âge qui bêche le sol avec dans l'arrière-plan un château étincelant avec sept planètes dans un ciel rose et violet avec un, voilà, on l'entendait, un narrateur vraiment habité, c'est le chanteur Descamps. Ennui, dis-moi qui je suis sous ton foulard de vérité avant de t'en aller, Christian Descamps. Il y a une forme de définition de ce qu'il veut faire du rock hexagonal dans ce qu'on entend ici, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une musique très anglaise et ou très américaine, mais aussi cette volonté de parler du Moyen-Âge, de rester dans un folklore très européen.
Mais Ange est un groupe qui est issu de Franche-Comté, hein, de la ville de Belfort, et qui est très empreint de toutes les légendes qui peuvent exister là-bas. Et le but de Christian Descamps, c'est de raconter, de moderniser, de raconter ces légendes. Et il va en faire sa marque de fabrique, il va en faire quelque chose qui va porter Ange finalement à des niveaux pratiquement inespéré, parce que Ange va devenir en quelques années le plus gros vendeur de disques pop en France et va attirer énormément de monde dans ses concerts au point d'être le premier groupe de pop française à remplir le Palais des Sports à Paris. Donc un groupe qui a été important quand même dans cette histoire.
Et puis qui est toujours actif, hein, sous la houlette de Christian, voilà. Descamps. Ils publiaient récemment leur 44e album.
Quand même, respect.
Heureux. Voilà. Et puis il y a même une tournée qui se poursuit avec des concerts à venir. Marc Alvarado, il y a une rivalité pour certains fans entre Ange et Magma. Je précise que Magma est très bien représenté dans votre livre. Et,
oui.
Il en est aussi beaucoup question, mais il fallait choisir pour les fans des deux groupes.
Je pense que ce sont deux groupes qui ont vraiment réussi à fidéliser un public de fans. J'ai même tendance à dire pratiquement de fanatiques, c'est-à-dire des gens qui étaient prêts à les suivre, quelles que soient les directions musicales qu'ils allaient emprunter. Pour certains d'ailleurs, Magma était un groupe un peu sectaire, qui ressemblait peut-être à une secte, sans le côté évidemment religieux de la chose.
Avec la langue.
Voilà, cette langue propre, et puis ce côté un peu martial, c'est-à-dire on était dedans, on n'était pas dedans, il fallait adhérer, quoi, fallait. Donc ce sont effectivement deux groupes qui ont une place importante dans mon livre, d'abord parce qu'ils ont une longévité exceptionnelle, puisque les deux sont encore, vous l'avez dit pour Ange, mais Magma,
Christian Vendel est toujours là,
et Magma est toujours là, et deuxièmement ce sont des groupes qui ont proposé artistiquement, esthétiquement, musicalement, de vrais univers, qui étaient des univers intéressant à cette époque. Et ce sont des groupes aussi qui ont tourné à l'étranger, ce qu'on sait beaucoup moins, mais ce sont des groupes qui ont quand même connu du succès sur des scènes en Angleterre, dans les pays du nord de l'Europe, etc. Et qui malheureusement n'ont pas connu plus de succès, je dirais, en termes de chiffres, de ventes, parce que leur maison de disques ne distribuait pas leurs disques à l'étranger, ce qui était quand même assez dommage.
Il se peut bien que tel soit à quelques moments le sort du voyageur, mais pour le dédommager viennent ensuite les matins des...
Il faut se rappeler qu'en 72, 73, en France, il y avait 10 personnes au monde qui travaillaient sur ces synthétiseurs, quoi. Donc, 2 en France, 4-5 en Allemagne, 1 en Angleterre, 1 aux États-Unis, 2 au Japon, c'est tout. Donc, il y avait tout un chemin à défricher qui collait bien avec le monde des machines propres à Deleuze. Mais il n'y a aucune application d'aucune théorie là-dedans. Je veux dire ça, ça serait. Par contre, on voit immédiatement le rapport entre une effectuation musicale, un travail sur le matériau, un travail sur la répétition, un travail sur le process. Et les concepts philosophiques, deleuzien ou pas, deleuzien dans mon cas, mais enfin bon, je veux dire, le concept de différence est suffisamment large pour recouvrir beaucoup de champs. Et le concept d'événement, voilà. Événement, temps, durée, mémoire, répétition, différence, et puis ouais, ça forme un nœud musical assez serré.
Vous évoquez aussi beaucoup, Marc Alvarado, le groupe Eldon, le groupe mené notamment par Richard Finas, qu'on entendait ici à l'instant. Quelle part tient cette frange de rock, ce que vous qualifiez de rock expérimental post-communautaire ?
Bon, pour être clair, ce ne sont pas des gens qui ont vendu beaucoup d'albums, mais par contre, ce sont des gens assez exemplaires parce que Ce sont des gens qui ont fait des choix, qui étaient des choix assez radicaux. Et ces choix étaient vraiment en droite ligne avec l'esprit de la Révolution, c'est-à-dire s'auto-gérer, s'auto-alimenter, ne dépendre de personne, ne faire de concessions à personne. Et je crois qu'on ne peut pas enlever à Richard Pinas le fait que à aucun moment dans sa vie artistique, il n'a fait de concession à quoi que ce soit. Et en cela, je trouve que le personnage est relativement exemplaire. Donc le premier 45 tours qu'il enregistre, c'est celui qu'on vient d'entendre avec Gilles Deleuze, qui était son prof de philosophie et de sociologie à l'université de Vincennes. Voilà, c'était ces idées-là qui étaient iconoclastes, c'était cette envie aussi de faire passer ces messages-là, avec de la musique derrière expérimentale. Donc ça a été un des premiers à utiliser le synthétiseur, ça a été un des premiers en France à avoir un gros système Moog, ça a été un des premiers aussi à utiliser la guitare synthétiseur, enfin voilà. Donc on l'a mis dans une catégorie qui était un petit peu krautrock, faute de mieux. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui a tracé son sillon et en tant que tel, même s'il n'a pas vendu énormément de disques, c'est quelqu'un qui a marqué de sa pierre l'édifice du rock français des années 70, on va dire, fin 60-70.
Alors, où sont les femmes dans tout ça, Marc Alvarado? Parce qu'évidemment, vous évoquez Brigitte Fontaine et Areski, oui. Colette Mani aussi, mais voilà, tout ça, c'est entre le théâtre et la chanson blues, et on a l'impression qu'il n'y a pas véritablement de chanteuse dans le rock ou le folk, sauf peut-être là.
Je voudrais pouvoir afin que je puisse aimer quelqu'un d'autre que toi, quelque autre chose que toi.
Jusqu'à ce que la force me manque, et visiblement, elle n'en manque jamais. Catherine Ribeiro plus Alpes, c'est comme ouais. ça qu'il faut le dire. Mmh. C'est le premier album paru en 73, c'était Paix. Les textes et le chant reviennent à Catherine Ribeiro et la musique à Patrice Moulet, une sorte de chanson rive gauche électrifiée.
Oui, Catherine Ribeiro, elle a un parcours au départ dans la variété, et puis elle ressent l'appel de la Révolution et met sa voix au service d'un texte un peu contestataire, on va dire. Et tout de suite, elle est cataloguée, effectivement, de gauchiste. Donc, au départ, les médias vont vaguement s'intéresser à elle. Et puis, très vite, elle va, effectivement, connaître les affres de la censure. Derrière les textes de Catherine Ribeiro, il y a la musique de Moulet, qui est une musique qu'on a beaucoup comparée à Pink Floyd, enfin, Pink Floyd de cette époque. Et Moulet était un multi-instrumentiste qui inventait lui-même ses instruments, donc il arrivait à jouer avec des instruments complètement incroyables et créer ces textures sonores très particulières. Et comme l'a beaucoup dit Catherine Ribeiro, on nous comparait à beaucoup à Pink Floyd, sauf que Pink Floyd, quand ils allaient en studio, ils avaient 3 mois pour enregistrer, alors que nous, on faisait un album en 3 jours. Voilà, c'était à peu près le problème de la pop rock française de cette époque, c'était qu'ils n'avaient pas les moyens techniques et artistiques de rivaliser avec leurs camarades anglo-saxons.
Quelle place pour les femmes alors dans cette discographie, dans ce qui se passe dans l'après mai 68 finalement? Les discours féministes n'ont pas été entendus ou se retrouvent pas dans la musique?
Alors, Marc Alvarado, c'était le début du mouvement féministe et effectivement mai 68 a contribué sans doute à donner de l'ampleur à ce mouvement-là, en tout cas à le faire naître puis à lui donner de l'ampleur. On l'a pas beaucoup retrouvé dans la musique, c'est vrai. Les groupes de rock étaient, à quelques exceptions près, pratiquement exclusivement masculins. Par contre, les voix, certaines voix ont porté, vous avez parlé de Colette Magny ou de Brigitte Fontaine, le choix musical qui était derrière n'était pas forcément un choix dit rock, mais il y a quand même quelques voix qui ont beaucoup existé dans la musique post-mai 68, dans sa version féminine.
Alors Marc Alvarado, pour finir, je vous propose de choisir dans la boîte de disques qui est devant nous, parce qu'on a sorti encore d'autres choses dans les discothèques de Radio France.
Alors on a effectivement Gong, pas mal de Gong, dont la bande originale du film Continental Circus de la Pérouzaz, qui était assez difficile à trouver aujourd'hui.
Ouais, un film sur les motos.
Voilà. Léo Ferré, qui a été un des premiers en France qui provenait du milieu rive gauche à vraiment s'intéresser au rock, d'abord via les anglo-saxons, puisqu'il voulait enregistrer avec les Moody Blues, qui citait dans sa chanson cet extra, et qui finalement va enregistrer avec le groupe Zoo, qui est un groupe français de blues, rhythm and blues, plutôt intéressant. Alors Magma, on a beaucoup de choix au niveau Magma. On va peut-être écouter un petit morceau de Magma. Qu'est-ce que vous pensez d'une petite partie du Mécanique Destructive Commando?
Allez, face A, face B.
Passons à la face A.
Alvarado.
Merci à vous.
Et on se quitte avec Mécanique Commando et Magma. Continent Musique touche à sa fin, en tout cas pour ce soir. Merci Marc Alvarado, vous êtes l'auteur de ce livre dont on a parlé aujourd'hui, La Chienlit, le rock français et mai 68, histoire d'un rendez-vous manqué, c'est des éditions du Layer. Toutes les informations et la programmation musicale sont à retrouver sur la page internet de l'émission Continent Musique sur franceculture.fr, ainsi que la réécoute et le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et puis vous recevrez tout.
Alors on y va, c'est bon.
Continent Musique vous est proposé par Mathieu Conquet avec la collaboration de Pascaline Benet. Cette semaine, nous accompagnait Lola Mériche. Réalisation, Olivier Guérin. À la prise de son ce soir, Eric Villenfin. Merci à Annie Lozana de Lina et Antoine Villose de la discothèque de Radio France. Les programmes continuent, restez en bonne compagnie sur France Culture. Bonsoir.